Alors maintenant, je vous présente les auteurs en mettant les livres en parallèle. Nous avons de l'autre côté de là où je me tiens, d'abord Marguerite, que je remercie d'avance, puisqu'elle sert d'interprète à Saul Black. Alors Saul Black nous présente un livre qui s'appelle « Leçon d'un tueur ». À côté de lui se tient Indrek Argla, excusez ma prononciation, du nom estonien, qui nous présente un livre qui s'intitule « Le glaive du bourreau ». À côté de lui se tient son traducteur, son interprète, que je remercie, et aussi son traducteur d'ailleurs, que je remercie donc doublement. À côté de lui se tient Antoine Traki, qui nous présente « Mausolée ». Et enfin, à côté de moi, Sébastien Reiser, « L'alignement des équinoxes ». Alors, on va peut-être commencer justement par celui qui est le plus proche de moi. Alors, ce livre s'intitule « L'alignement des équinoxes ». C'est un premier roman, mais c'est aussi le démarrage d'une série. En tout cas, on annonce on annonce à la fin du premier livre le fait qu'il y aura un deuxième tome.
Et un troisième.
Rendez-vous compte, une trilogie. Alors, Sébastien Reiser est quelqu'un, quand on lit un peu la bio, qu'on vous présente comme le fondateur de deux maisons d'édition, et d'une collection, donc Camion ouais. Blanc et Camion Noir, oui. Qui est une maison d'édition spécialisée dans les livres sur le rock, du classique au plus extrême.
On a dans notre collection Danny Boy, qui est le premier Français à avoir enregistré à 45 tours de rock avant Eddie Mitchell, avant Johnny Hallyday, et jusqu'à toutes les tendances de métal actuelles. Oui.
Alors, la deuxième caractéristique dont on parle dans la bio de Sébastien Reiser, l'un comme l'autre, si je parle de ces aspects de la bio, c'est parce que, bien entendu, on en parlera à propos du livre L'alignement des équinoxes, bien entendu. La deuxième chose, c'est que vous habitez Kyoto.
Oui.
Voilà. Donc, il y a du Japon à venir. Voilà, nous avons un livre qui, au départ, a une structure finalement tout à fait classique de polar, tellement classique que c'est l'APJ et que ça se passe au Quai des Orfèvres. Donc on peut se dire au départ, bien, ça va être le polar classique, sauf que ça déjante très vite. Mais donc la première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi le genre polar ?
C'est la rencontre avec Aurélien Masson, le directeur de la collection Série Noire. Et en fait, j'ai écrit deux romans, en 1999 et en 2001. Le premier chez Vertical, le deuxième chez Grasset, qui étaient des romans que je dirais d'initiation personnelle, mais aussi d'hommage aux écrivains que je lisais depuis l'adolescence, où c'est un personnage narrateur qui s'enfonce dans une histoire inconnue et dans un monde inconnu à toute vitesse, à toute blinde. Et pour prendre une image courte mais si marquante, vous voyez, c'est comme l'alchimiste, en fait, ne veut pas transformer le plomb en or, l'alchimiste veut se transformer lui-même. Et ce genre de roman-là, je me suis dit, oui, je peux les faire, je peux en refaire. Et mes polarisations personnelles, moi, je reste toujours du plomb au final. Donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne le temps de mettre en cohérence littéraire des polarisations très fortes qui a priori sont disparates, qu'on pourrait résumer par des écrivains comme Mishima, Philip K. Dick, William Burroughs, plus j'ai beaucoup voyagé, donc des récits de voyage, de la poésie. Je suis moi-même, j'écris des haïkus en permanence, je fais des petits bouquins de haïkus hors commerce. J'en écris tous les jours. Je voulais mêler un peu tous ces genres d'écriture différentes. Et j'ai mis des années à chercher, à faire des tentatives, sans volonté de publication, sans volonté d'arriver à une forme de livre. Juste prendre des chemins de traverse. Jusqu'à ce que je rencontre Aurélien Masson et qui m'a tapé sur l'épaule au bout de quelques heures de discussion et qui m'a dit « Mais hey, t'es prêt ? Vas-y. » Donc j'y suis allé. Voilà.
Alors, si vous voulez aimer ce livre, il faut résolument laisser de côté tout esprit cartésien. Je crois que le but de l'expérience, c'est quand même beaucoup aussi de dérouter le lecteur, à la fois de le mener dans une histoire, on sait où on va, puisque c'est un roman policier, c'est des flics qui sont à la poursuite d'eux, mais en même temps de dérouter les gens. J'en veux pour preuve, par exemple, dès le départ, le fait qu'on a des tas de citations de choses japonaises, des sabres, des arts martiaux, sans qu'on ait particulièrement d'explication de ce dont il s'agit. Donc quand on est comme moi, qu'on n'y connaît absolument rien, au départ on s'est dit où on va, et puis on se laisse perdre et on se laisse porter.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme qui se prend pour un samouraï. Absolument. Ce qui n'existe pas dans l'histoire du Japon. Dans la mythologie japonaise, au XIe siècle, il y a une femme qui s'appelle Tomoe Gozen. Alors on ne sait pas si c'est vraiment de l'histoire ou de la mythologie, mais ce serait la seule femme samouraï du Japon. Autrement, ça n'existe pas. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement de confronter une sensibilité féminine à quelque chose de très martial, de très guerrier, comme la voix du samouraï. Et qu'une femme choisisse de prendre cette voix. Mais c'est une voix spirituelle.
Oui. Donc vous voyez bien à quel point il nous faut, nous, lâcher prise pour pouvoir rentrer dans ce côté. Alors là, pour le coup, effectivement, pour vous, ça s'applique bien, la présence du fantastique, quelque part. Hein. Je voulais vous demander si vous pouviez nous parler un tout petit peu de Musashi, Miyamoto Musashi. Et je vais vous dire pourquoi. J'étais, moderne, mais je suis aussi interprète, et il se trouve que je vais interpréter tout à l'heure Paul Watson, qui est considéré comme éco-guerrier. Alors j'ai lu le bouquin de Paul Watson en question, et le Paul Watson en question écrit un livre sur la stratégie à suivre quand on veut être un éco-guerrier. Et il indique 4 sources d'inspiration, Sun Tzu, McLuhan, lui-même, ce qui prouve qu'on peut être éco-guerrier et avoir un solide ego finalement, mais enfin ça c'est un autre problème. Et puis la quatrième source d'inspiration, c'est Miyamoto Musashi. Je me suis dit, alors ça, quelle incroyable coïncidence de tomber 2 fois sur un type dont j'avais jamais entendu parler, bien évidemment. Alors dites-nous.
Alors il y a un truc marrant avec Miyamoto Musashi, il est connu en Occident parce que c'est l'auteur du Traité des 5 roues. C'est un livre qu'il a écrit à la fin de sa vie. Mais quand il était jeune, c'était pas un samouraï, mais c'est le plus grand sabreur de l'histoire japonaise. Et très jeune, il avait une histoire, une mythologie autour de lui, et tout le monde voulait se confronter à lui, notamment quand il est arrivé à Kyoto. Il y a toute une école de sabres qui l'a défié. Et Musashi a répondu, « On va pas perdre de temps, je vais pas vous prendre un par un, je vais vous prendre tous ensemble. » Et il a mené une bataille au Boken. Le Boken sont des sabres en bois. Donc il a désarmé 70 adversaires, sans les, bon, peut-être blessés, mais sans les tuer en tout cas, parce qu'il combattait avec des sabres en bois. Il a désarmé 70 adversaires près d'un sanctuaire Shinto. Et l'événement était tellement extraordinaire, a eu tellement de résonance, que le sanctuaire Shinto est devenu le sanctuaire de Miyamoto Musashi. Et j'ai écrit l'alignement des équinoxes, j'étais très imprégné de l'histoire japonaise au travers de livres, de films, mais je n'avais encore jamais mis un pied au Japon. Et le premier jour où j'ai rendu le manuscrit à la Série Noire, je suis parti en Asie du Sud-Est d'abord, ensuite je suis passé de l'autre côté de la Chine, j'étais en Extrême-Orient, en Corée quelques semaines, et finalement au Japon. Première chose que j'ai fait le premier jour, c'est aller au temple de Miyamoto Musashi. Et il s'est passé, en fait, il y a eu un tremblement de terre. Il y en a 1000 par an au Japon, dont à peu près peut-être 800 qu'on ne sent absolument pas. Et j'ai senti la résonance physiquement dans mon voyage du bouquin de ce que Karen, l'héroïne qui s'est choisie Musashi comme maître, je l'ai ressenti physiquement après avoir écrit le livre.
Au travers du tremblement de terre, vous voulez dire ?
Oui, mais en fait,
au moment où vous étiez dans le temple. Plus ou moins.
Oui, exactement, dans le sanctuaire. Les temples, c'est bouddhiste, les sanctuaires, c'est shinto. Oui. Et j'ai mis des semaines à comprendre. Là, j'ai compris que mon histoire avec le Japon était beaucoup plus vaste que ça. Et en fait, j'y suis resté, j'y habite. Et il s'est passé plusieurs semaines, peut-être 2-3 mois, avant que je comprenne que le tremblement de terre, en fait, il avait eu lieu qu'en moi. Et je ne crois pas, en fait, qu'il y ait eu de tremblement de terre général. C'était juste en moi, en fait.
Ah oui. Donc, on a cet aspect, je disais, de flou, de déroutant, d'un peu brouillardeux pour le lecteur au départ. Alors, on ne comprend pas au départ du tout ce que vous voulez dire quand vous parlez de loi de l'alignement physique, psychique, spirituel. On a besoin de progresser. D'ailleurs, certains participants au certains, comment dirais-je, personnages du livre, eux-mêmes disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc on est plus du côté des flics qui comprennent rien que de ceux qui progressent. Et c'est, il nous faut aussi progresser dans le livre pour petit à petit arriver à suivre cette histoire, une histoire terriblement noire de manipulation mentale et, qui passe par le dark web, enfin...
Une histoire de libération aussi. Hein.
Et une histoire de libération, en surtout, effet. Mais ce que je voulais vous demander, c'était... vous avez un personnage, de même qu'il y aura dans, chez un de nos autres écrivains un finalement une idée de l'amour absolu, il y a chez vous quand même une description du mal absolu. Cette vipère, c'est véritablement parce qu'il y a un personnage qui a pour surnom la vipère, qui fonctionne par manipulation mentale, c'est une espèce de sorte de gourou. C'est quoi ce mal absolu? Il cherche quoi cet homme-là?
Peut-être que la vipère, c'est l'image de Lucifer.
Oui.
Mais Lucifer, c'est le porteur de lumière. Et la vipère, à travers ce qu'il appelle la loi de l'alignement, c'est-à-dire faire comprendre à ceux qu'il choisit comme ses élèves, à ceux qu'il choisit d'initier, des gens vierges parce que marginaux dans la société, donc qui possèdent une certaine virginité, malgré leur traumatisme, malgré leur trouble, malgré leur vie chaotique, ils possèdent une réceptivité. Ils s'intéressent surtout aux gens qui ont une forte réceptivité. Sa loi de l'alignement, on ne dévoile rien du bouquin en disant ça, mais il leur dit que nous vivons trois vies simultanées. Une vie physique, matérielle, une vie psychique, qui est une espèce de communion qui dépasse le langage entre tous les individus, et une vie spirituelle. C'est ça la loi de l'alignement de la vipère. Oui. Et on voit donc plusieurs personnages à différents stades de cette loi de l'alignement. Le but étant d'atteindre l'équinoxe de la loi de l'alignement. On commence effectivement par Karen. Chacun peut donner la forme qu'il veut à la loi de l'alignement. Karen, qui est la première élève de la vipère, choisit de lui donner la forme de la voix du samouraï. Mais on rencontre d'autres personnages qui lui donnent des formes tout à fait différentes.
Et vous parliez de réceptivité, évidemment, un des ressorts du livre, c'est qu'un des flics qui cherche, qui est responsable de toutes ces victimes qui s'accumulent les unes après les autres, est effectivement particulièrement réceptif.
Oui.
Mais alors moi, je voudrais vous demander s'il n'y a pas aussi quand même quelque part une bonne dose d'humour, parce que j'ai absolument adoré, chacun de ces flics a un surnom américain.
Oui.
Et alors, ces surnoms américains, c'est Wolf, Silver, Big Jim... On est là quasiment dans le cliché, sauf que le Wolf, ça vient de Wolverine, et le type il s'appelle Luke Hackman.
Oui.
Le clin d'œil, il est quand même un peu gros, mais en même temps, je voulais juste dire à ce propos que il se trouve qu'il y a quelque temps j'ai été aux eaux de Vincennes et que j'ai été voir un Wolverine, et je me suis rendu compte que Wolverine, c'est le mot anglais pour, en français, le glouton. Dites-donc Hugh Jackman, il serait drôlement moins sexy s'il s'appelait Glouton. Hein.
Oui, effectivement.
Enfin voilà, de Wolverine, on passe à Wolf et à Silver, donc là vous êtes amusés.
Oui, oui, oui. Oui,
d'accord.
Mais c'était surtout pour... en fait, les flics font des choses tellement difficiles. J'ai beaucoup parlé avec des flics pour écrire ce bouquin,
oui.
que je remercie à la fin d'ailleurs. Et ils me racontent leur vie et la difficulté qu'ils ont de mettre une distance entre eux. La vie personnelle qu'ils veulent vivre et l'horreur à laquelle ils sont confrontés. Et c'est vraiment très, très, très dur. Donc, la distanciation passe par des surnoms. Et moi, je me suis amusé à mettre des surnoms de l'univers Marvel. Mais
oui.
C'est pour mettre une dose de légèreté et d'humour.
Oui, il y avait besoin. Parce que c'est
oui.
Bon, écoutez, on reviendra. Je voudrais donner la parole à chacun des autres écrivains, mais j'aimerais qu'on revienne à la fois au web et à la musique. Je crois que c'est des choses qui sont spécifiques à votre livre par rapport aux trois autres, donc il faudra qu'on y revienne. Je voudrais maintenant continuer avec Small Black. Et Small Black, il faut savoir que c'est l'avatar, et j'utilise le mot volontairement, de Glenn Duncan. Alors, Glenn Duncan est un auteur, j'allais dire culte, mais culte, ça donnerait une fausse idée parce que ça voudrait dire qu'il y a un tout petit lectorat. Or, en fait, c'est un auteur phénoménalement populaire de livres de fantastique, pour le coup, et en particulier, je pense à une trilogie autour des loups-garous. Il a un lectorat fanatique tout à fait important. Alors je voulais lui demander, puisque à propos de Glenn Duncan, c'est votre nom ou c'est aussi un pseudo?
No, Glenn Duncan is my real name. Yes. It's not as cool as Saul Black, but it is my real name.
Non, Glenn Duncan, c'est bien mon vrai nom. Ça sonne pas aussi cool que Saul Black, mais c'est mon vrai nom.
Bon, et alors donc, je voulais vous poser la question un peu malicieuse. Pourquoi avez-vous choisi un pseudo comme Saul Black? Est-ce que c'était parce que vous aviez peur que vos lecteurs loups-garous n'apprécient pas que vous passiez au polar? Ou bien est-ce que c'était simplement parce que vous changiez de genre, donc vous changiez d'identité?
Actually, the honest answer is a bit of both. First of all, the name itself was not chosen by me. It was chosen by my literary agent, who is very skilled with these things, although he has a fetish for the initials S and B, which is another whole story. But so partly, yes, it was the idea, I suppose, the cynical or pragmatic idea was that if there were existing readers of Glenn Duncan, they might well be attracted to what the writer was doing in a new identity. And if there were people who had tried Glenn Duncan's books before and hated them, they might not realize that Saul Black was the same person.
Alors, honnêtement, la réponse, c'est un peu des deux. C'est un nom, en fait, que c'est pas moi qui l'ai choisi, en fait. C'est mon agent littéraire qui est particulièrement doué pour ce genre de choses, même s'il a une sorte de petite obsession pour les initiales S et B, je dois le préciser. Mais en tout cas, l'idée, de façon assez cynique et pragmatique, c'était que s'il y avait des lecteurs qui avaient aimé Glenn Duncan, ils seraient susceptibles d'être attirés aussi peut-être par les livres de cette nouvelle identité. Et que s'il y avait des gens qui n'avaient pas aimé les livres de Glenn Duncan, bah, peut-être, sans le savoir, ils pourraient du coup aimer les livres de Saul Black.
Et donc alors, là, on est dans un polar à structure absolument classique. On peut dire qu'au fond, il y a 3 sur 4 ici des écrivains qui ont écrit des polars. Et si on regarde la structure qu'ils ont choisie, un a choisi la structure de ce que les Anglais appellent le « who done it ». C'est-à-dire le polar à la Agatha Christie, où à la fin, il y a, tout le monde est réuni et on a la révélation qui est expliquée et suivie d'explications de qui a commis le crime. Et d'ailleurs, enfin bon, donc voilà, on y reviendra quand on s'adressera à l'écrivain qui a choisi cette structure-là. Et puis, il y a l'autre structure qui consiste à pas tellement porter d'intérêt à qui, spécifiquement parmi les gens qu'on connaît, est le coupable, mais plutôt le polar course-poursuite, où on se dit, pourvu que les policiers arrivent à coincer le criminel avant qu'il ait fait encore une autre victime. C'est ce choix-là, clairement, qu'a fait Saul Black dans son livre « Le son d'un tueur ». On a un truc parfaitement haletant où du début à la fin, on se demande « Mon Dieu, va-t-on réussir à sauver des victimes ?» Victimes auxquelles le lecteur véritablement s'identifie parce que le choix que vous avez fait, et j'aimerais que vous nous en parliez, a été la multiplicité des points de vue, ce qui fait qu'on rentre dans l'intimité aussi bien des victimes potentielles, mais aussi, finalement, des tueurs en série qu'on suit. Alors, parlez-nous de ce procédé narratologique, de la multiplicité des points de vue.
One part of the answer is that in any story that I'm writing, whether it's about werewolves or the devil or a disintegrating family in the suburbs of London, what I'm trying to do is to get to the psychological reality of any given situation, no matter how generically familiar those situations may be. So we've all seen the serial killer story many times before. We've all seen the detective cat and mouse story many times before. We've all seen the captured victim's plight story before. But the appeal for me in revisiting some of those very, very familiar story ideas is to try and refresh them. And you can there isn't much new under the sun, as has been said before. But what there is available to writers is a range of new ways of expressing those sensations. So much so that even if you've seen The Silence of the Lambs and even if you've seen An American Werewolf in London, the challenge for writers, if they're going to compete with the screen, is to somehow get to the interiority of those experiences in a way that makes them feel fresh for the reader. So that was part of the reason why I chose to write the book with multiple narrative perspectives, to go to some of the most cliched and obvious and familiar scenarios and character types, and to try and refresh them imaginatively and make them feel new. Also, I had just written three novels about werewolves who kill people every other page. So, in first-person narrative, so it was appealing to me to take a sort of omniscient narrative viewpoint and stop getting my hands covered in blood, as it were.
Une partie de la réponse est que dans toutes les histoires que j'écris, qu'elles racontent des histoires de loups-garous, qu'elles parlent du diable ou d'une famille qui se décompose dans la banlieue de Londres, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de décrire la réalité psychologique des situations, que ce soit des situations familières ou pas du tout. On connaît tous des histoires de polar, on connaît tous l'histoire du détective qui lutte contre l'horreur du quotidien, celle des victimes, etc. Ce sont des histoires qui nous sont très familières. Et ce que j'essaye, c'est de les aborder et de leur apporter quelque chose de frais, d'en faire quelque chose d'un peu neuf à partir de ces histoires qu'on connaît tous, et de trouver de nouvelles manières d'exprimer les sensations en fait, de chacun de ces personnages et de ces histoires, pour qu'on puisse, même si on a vu Le silence des agneaux et tous ces films, si le roman peut se comparer d'une certaine manière à ce que peut faire un film justement sur écran, ce soit justement d'apporter dans la narration une manière nouvelle de décrire ces expériences, une forme d'intériorité, ces sensations des personnages. Donc je m'appuie sur les clichés, sur vraiment des types de caractères assez classiques, et j'essaie de les aborder d'une façon nouvelle. Et puis aussi, je venais d'écrire une trilogie, trois romans avec des loups-garous qui tuaient des gens à toutes les pages. Je l'écrivais à la première personne, et donc j'avais aussi, c'était une idée assez attirante pour moi, que d'avoir une narration omnisciente où je ne serais pas obligée de me tremper les mains dans le sang.
Oui, alors... effectivement, revisiter les clichés et transformer les clichés, entre autres... au lieu de choisir le flic usé par la vie, vous avez décidé d'avoir une femme flic usée par la vie. Parlez-nous du choix de votre héroïne.
I think it was well, for one thing, in the novels that I'd written before this, some of my characters and at least two of my narrators were, you know, between 400 and 20,000 years old. So so I was done with the old guys. I wanted to go back to somebody who was effectively in the prime of life. Also, because the killings in the novel, the murders in the novel, are perpetrated by a man against women, it seemed the most sensible thing to have a female cop rather than a male cop. And also, I prefer writing female characters because if I'm writing a male character, especially a world-weary male character, they all just end up being me. So if I write female characters... if I'm lucky, I mean, if I do the work with any kind of integrity at all, it raises the bar and it forces you to question everything that you're writing. Is this really what this woman would do or say or think, or am I just falling back on what I would say or do or think? So it creates a kind of imaginative challenge, and if you're faithful to it, I think the writing actually gets better. So I've learned from experience over, you know, 11 novels now, that actually my writing improves if I'm writing female characters. None of the women in my life would agree with that, but nonetheless, on the page, I think it does actually work.
La, première chose, c'est que dans tous les romans que j'avais écrits auparavant, il y avait beaucoup de personnages et au moins deux des narrateurs qui étaient âgés de 400 à 20 000 ans. Donc j'en avais un peu marre des vieux. J'avais besoin d'un peu de fraîcheur, de quelqu'un qui était dans la force de l'âge. La deuxième chose, c'est que dans le roman, les meurtres sont commis par un homme à l'encontre de femmes. Les femmes sont des victimes et donc c'était logique pour moi d'avoir un flic qui soit une femme. La dernière chose, c'est que je préfère en fait écrire des personnages féminins aussi, parce que quand j'écris des personnages masculins, en particulier des personnages masculins un peu usés par la vie, ils finissent toujours par me ressembler d'une façon ou d'une autre. Alors que si j'écris des personnages féminins, si j'ai de la chance et puis si j'y mets un peu d'intégrité, c'est plus difficile et ça fait que je suis obligée de me poser en permanence la question de savoir si vraiment elle agirait comme ça, ce personnage féminin, ou si je suis encore une fois en train d'écrire quelque chose qui me ressemble à moi. Donc le défi est plus grand et du coup quand je suis confrontée à ce défi d'écriture, j'écris mieux et j'ai l'impression en fait que mon écriture a toujours été meilleure quand j'écrivais des personnages féminins. Les femmes qui ont partagé ma vie ne seraient sans doute pas d'accord avec ça, mais en tout cas sur les pages ça marche.
Et alors, je voudrais maintenant passer à quelque chose qui ne m'est pas apparu immédiatement, mais que j'ai surtout vu en voyant ma fille lire votre roman. Il y a des moments où elle était absolument pliée en deux. Donc, il y a vraiment de l'humour dans votre... Alors, les situations sont absolument terribles, mais ce type qui est cloué par une sciatique et qui ne peut absolument pas avancer, mettre un pied devant l'autre, c'est un truc qui a complètement réjoui ma fille. Et effectivement, les personnages, humains, trop humains, cloués par le destin et par la sciatique et par la lombaire, enfin la L5 et la S1 qui coinçaient. Donc, est-ce que c'est exprès que vous avez mis une dose d'humour dans cette histoire terrible de gens qui sont tués et atrocement mutilés, enfin, etc. La place de l'humour.
Yes, it was on purpose. Everything is on purpose. But I suppose there are two things. One is that my belief is that the human sense of humor is lawless. It does not play by the rules. So we find ourselves laughing in the most inappropriate situations. And even in situations of extremists, if we're lucky, we can still see the funny side. So that's just my way of seeing the whole human experience. No matter what you're going through or how inappropriate laughter or a sense of the absurd may be, nonetheless, it finds its way in. The character that you're talking about, who is the sort of decrepit, potentially suicidal writer, is suffering from sciatica. And I'm afraid this was just an indulgence on my part, because 2 years ago, I was afflicted with sciatica. And it's the most pain I've ever felt in my entire life. I was on all fours in my bedroom, alone, weeping like a 5-year-old child, and just begging for death, because I thought, I'm actually going to die of pain. So following the sort of general dictum for protagonist difficulties, the deal is that you make a very simple goal for your character, and then you just make it as difficult as possible for them to meet that goal. And having been recently recovered from sciatica myself, it was very fresh in my mind, so that was a little bit of indulgence on my part. But I hope it helps with the fact that the two characters who are trying to protect each other in a way are both immobilized for different reasons.
Oui, je l'ai fait exprès. D'ailleurs, on fait toujours exprès, on fait tout exprès. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que pour moi, le sens de l'humour fait partie de l'humanité et n'obéit à absolument aucune loi. On est capable de rire dans les situations les plus inappropriées et même les plus extrêmes. Et il y a toujours un moment où, c'est vraiment ma vision de l'expérience humaine, où quelles que soient les difficultés qu'on traverse, le rire, l'absurde, peut toujours trouver le moyen de s'immiscer là-dedans, y compris quand c'est pas du tout le bon moment. moment. La deuxième chose, c'est que ce personnage, donc, est un écrivain décrépit et qu'on pourrait dire suicidaire. Donc il est affligé par une sciatique. Il se trouve que moi, j'en ai une il y a à peu près 2 ans. Donc il y a une forme un peu d'auto-apitoiement en utilisant ça. C'est vraiment la pire douleur du monde. Je me suis retrouvée à 4 pattes dans ma chambre. J'avais l'impression d'être un enfant de 5 ans et je suppliais. Je rêvais de mourir parce que j'avais l'impression que de toute façon, j'allais mourir. Donc ce personnage, vraiment, c'est un personnage à qui j'ai fixé un but extrêmement difficile à atteindre et je voulais faire en sorte que ce soit encore plus difficile pour lui d'atteindre cet objectif, de remplir cet objectif. Et donc la sciatique était quelque chose qui était encore très frais dans mon esprit et était une bonne façon de faire. Et puis c'est aussi ces deux personnages qui essaient de se protéger l'un l'autre et ces deux personnages sont complètement immobilisés. Et c'était aussi un trait que je voulais mettre.
Alors, je vais être obligée de poursuivre hein, parce qu'il faut quand même qu'on parle de tous les livres, mais je reviendrai aussi vers vous pour parler d'amour parce que mon côté fleur bleue a personnellement été ravi par un courant d'amour fou. Vous êtes sans doute un grand romantique, donc on reviendra là-dessus. Mais maintenant, je voudrais parler du livre de Indrek Hargla, donc Le glaive du bourreau, que voici. Alors, c'est le livre probablement le plus exotique des quatre, puisqu'il se passe au Moyen-Âge et il se passe à Tallinn, Estonie, monde qu'on connaît, mais alors absolument pas. Ceci dit, si on est un fan d'Indrek, on connaît parce que c'est le 3e roman, je crois, d'une série. La première question que je voulais poser, c'est que dans le mot que présente votre maison d'édition, il est dit que la série de Melchior l'apothicaire dure plus d'un siècle, des croisades jusqu'à la réforme. Mais votre personnage, il ne peut quand même pas être plus que centenaire.
Jaa, no see on algne mõte, mis mul oli, et vaadata Tallinna ajalugu läbi mitme sajandi ja kus peategelaseks oleks kuritegusi uuriv apteeker. Aga see tähelepanek on tõepoolest õige. Üks inimene meile teadaolevate vahenditega, isegi apteegirohtudega nii kaua ei ela, nii et siis tuli selleks mingi muu nipp välja mõelda.
Voilà, c'est vrai que c'était mon idée initiale, donc de voir un petit peu l'histoire de la ville de Tallinn à travers ce personnage d'un apothicaire enquêteur et sur une durée de temps qui pourrait être très très longue, mais même un apothicaire avec tous ses secrets et toutes les choses qu'il a à portée de la main, on se doute bien qu'il ne peut pas vivre aussi longtemps que ça, donc il fallait trouver des trucs.
Ja selleks paistab siis olevat selline nipp, et on apteekrite dünastia. Isa õpetab oma poja, nii nagu see keskajal oli, et vanem poeg pärib nagu isa ameti ja töökoha. Ja siis poeg jätkab apteegi töökõrvalt ka seda kuritegude uurimist. Aga 5 raamatut olen ma nüüd kirjutanud seda sarja, aga paraku tundub, et ma ei jõua kuidagi edasi ajas, eks ole, et kui sa oled nagu selle ühe karakteri juba leidnud, siis tahaks tema elu vaadata ja mitte nii kiiresti edasi hüpata.
Alors, donc, l'idée que j'avais, c'était d'avoir en fait toute une dynastie d'apothicaires dans laquelle à chaque fois l'apothicaire forme son fils aîné aussi bien au métier d'apothicaire que à ce qui est son occupation secondaire qui est de résoudre des énigmes et de pourchasser des criminels. Malheureusement, j'ai déjà écrit 5 livres dans cette série et j'aperçois que je n'arrive pas à me décider à quitter ce personnage, enfin celui avec lequel j'ai commencé, parce qu'à partir du moment où on est avec un personnage, on s'y attache.
Eh bien, en vous entendant parler estonien, j'arrive tout de suite à une question qui finalement est une question annexe, mais quand même. Au début du livre, une jeune femme envoie balader son amoureux en lui disant « Toute façon, toi t'es même pas un pur allemand, tu parles en partie estonien ». Mais enfin, Tallinn, c'est en Estonie. Alors, c'était comment au Moyen-Âge ? C'était une ville allemande ?
Euh,
selles maailmas, mida see apteeker Melchior kirjutab, ehk siis keskaegses Eestis linnades oli umbes, noh, laias laastus võiks öelda elanikud, pooled olid sakslased, pooled olid eestlased ja sakslased olid siis ülemkiht, kaupmehed, linnapead ja eestlased olid siis selline kesk- ja alamkiht. Noh, see on eelkõige selline põnevusromaan, kriminaalromaan, et seal nagu mingid erilisi sotsiaalpoliitilisi probleeme ei puudutata ja ajaloolises romaanis ei ole ka, noh, autoril ei ole võibolla, noh, tõlgi see.
Dans ce monde de l'Estonie médiévale, dans les villes, il y avait à peu près 50% d'Allemands suite à la conquête au début du XIIIe siècle, ça c'est moi qui le rajoute, et puis 50% d'Estoniens. Et les Allemands composaient en fait la couche supérieure socialement, c'est-à-dire qu'on avait les marchands, les conseillers municipaux, tous ces gens-là, tandis que les Estoniens étaient vraiment la partie inférieure de la société. Et même si dans un roman policier, on n'est pas toujours en train d'étudier de façon très détaillée ces problèmes sociaux, bah ça m'a intéressé quand même de me pencher dessus.
C'est clairement un des grands intérêts de votre livre, qu'on découvre totalement comment fonctionnait à la fois la société et l'économie de ce lieu. Mais dans votre prologue, vous indiquez d'ailleurs à quel point il y a d'une part l'ordre teutonique qui est conscient des enjeux de la Russie juste à côté, et puis la guilde hanséatique qui, elle, veut faire du commerce et ne veut pas entendre parler de danger potentiel de la Russie. Est-ce qu'il faut lire l'actualité dans le Moyen-Âge ?
Jaa, noh, kindlasti mina olen tänapäeva inimene ja kui ma vaatan ajalukku, eks ma siis kindlasti näen neid seoseid tänapäevaga, et 15. sajand, kus tegevus toimub, oli Eesti jaoks ja kogu Läänemeri jaoks selles mõttes üsnagi rahulik aeg, et hirmus aeg saabus 100 aastat hiljem, aga juba toona jah, oli selle Melchiori lugude toimumise ajal oli märke sellest, et see selline rahulik aeg kaua kestma ei saa jääda ja ida poolt on üks hirmus asi tulemas.
Bien entendu, je suis une personne de mon temps et quand j'écris sur une époque passée, je le fais avec les yeux d'une personne d'aujourd'hui. Et même si au XVe siècle, dans cette partie du monde, la vie était relativement paisible, il n'y avait pas de guerre très 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 proche. On sait que des événements graves et horribles sont arrivés à peu près 100 ans plus tard et je ne peux pas m'empêcher d'en relever les traces annonciatrices ici et là.
D'autre part, alors vous analysez, c'est absolument passionnant parce qu'on vit à l'intérieur de la société médiévale et il est intéressant de voir comment se structure la hiérarchie de cette société dans cette petite ville marchande. Clairement, les marchands et les conseillers sont en haut, mais ce qu'il y a de très particulier dans ce roman-ci, c'est qu'il est centré autour du bourreau et de la famille du bourreau. Et j'aurais voulu que vous nous disiez davantage quel était le rôle social du bourreau dans cette société et comment la famille était-elle perçue, la famille du bourreau. C'était quoi être la fille du bourreau, par exemple ?
Ja, no, ajalugu olgi selline vahva asi, et ega kuskil me ajaloallikatest ei leia ju mingit timuka tütre eluolu kirjeldust, et see on kõik selline kirjaniku enda välja mõeldis, milline oleks see võinud olla. Üleüldse juba see fakt, et timukas on abielu, seda on laps, ei olnud ilmselt päris igapäevane asi, sest ega timukal ei olnud kerge endale naist leida, kes temaga vabatahtlikult abielluga. Samas on teada, et Saksa linnades on olnud timukate dünastiad, nii et noh, kuidagi pidi siis nad on selle naise leidnud, aga selles raamatus See Timuka tütre elu ja maailmapildi kirjeldamine, jah, no see on ainult minu ettekujutus. Ma nii äkki oleks võinud olla, kuna mingisugused allikaid selle kohta ei ole, siis ei saa ka keegi nagu vastu vaielda või ümber lükata.
Bon, alors, il est évident que dans les livres d'histoire ou dans les documents historiques, on ne trouve aucune biographie de fille de Bourreau. Et l'avantage d'un état de fait comme celui-là, c'est que ça laisse libre cours à l'imagination de l'auteur. Il est déjà remarquable d'avoir un Bourreau marié et père de famille, en ce sens que le Bourreau n'était pas une personne avec qui on avait envie d'unir sa vie, même si, en fait, on cite dans des villes allemandes des cas de dynastie de Bourreau. Enfin, le fait est quand même plutôt rare. Mais en tout cas, j'ai trouvé là un champ tout à fait intéressant pour exercer mon imagination et qu'est-ce que ça pouvait bien être qu'être la fille du Bourreau.
Et vous avez choisi d'en faire quelqu'un qui, dans la société, est à la fois quelqu'un de bien installé, mais quelqu'un qui aura probablement des difficultés à se trouver un mari. Du fait du travail de son père.
Jah, see lugu on... Noh, eelkõige ta on kriminaalromaan ja kuna ta on selles tsüklis kolmas, siis ma üritasin selles kolmandas raamatus leida mingi teissuguse struktuuri, kui ma varem olen kirjutanud. Ja sellepärast see lugu käivitubki just nimelt selle Timuka tütre silme läbi ja me oleme selle tüdrukuga kaasas ja näeme neid asju nagu kõrvalt, kui siis poole raamatu peal ma väga loodan, on... selline ootamatu koht, et üks oluline tegelane lüüakse maha. Et noh, kriminaalromaani lugeja nagu peaks ootama, et kes see siis nüüd maha lüüakse ja mis siis nagu juhtuma hakkab, et selles mõttes, noh, kes ei ole lugenud, ma võib-olla siin edasi räägi, aga noh, selline ülesehitus oli tingitud jah sellest, et ma pean ju lugejat millegagi nagu üllatama.
En fait, comme c'était déjà le troisième roman que j'écrivais dans cette série, j'ai essayé de trouver une approche un petit peu nouvelle et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de voir tous les événements avec un regard un peu oblique, donc de par les yeux de cette fille du Bourreau jusqu'à ce que vers le milieu du livre à peu près un personnage essentiel disparaisse et j'espère que c'est une surprise pour le lecteur en tout cas bon le lecteur de romans criminels attend que des gens meurent et j'espère qu'il n'aura pas été déçu.
Ça, il risque pas. Et vous avez écrit alors un livre, un whodunit. Et effectivement, quand on arrive à la fin et qu'on nous fait la démonstration de qui est derrière tout ça, je vous assure que les bras vous en tombent. Donc, en plus du fait qu'on a eu le plaisir d'être transporté au Moyen-Âge, en plus, on a une histoire policière absolument formidable. Et je m'arrête là, je reviendrai vers vous aussi pour une petite question autour de la science-fiction. Mais maintenant, je veux terminer, vous aurez compris, Antoine, pourquoi je m'adresse à vous en dernier, c'est que vous, c'est pas du tout un polar. Alors vous, d'abord on lit la bio et on entend, et on lit, médecin légiste, spécialiste, expert auprès des tribunaux en toxicologie. On se dit, bon d'accord, ça va être Caisse Carpeta à la française. Et alors, on tombe sur un livre, un ovni absolu. 900 pages, mais 900 pages où ça ne débotte pas une seule seconde. Je dirais, c'est bien simple, Jules Verne testostéroné, plus James Bond, plus un petit coup d'anticipation. Et alors, là pour le coup, Hugh Jackman et autres James Bond peuvent tous aller se rhabiller petit bras par rapport à vos héros. Hein. Ça démarre en trombe et ça n'arrête pas jusqu'à la fin du bouquin. On a en fait un roman d'aventure. C'est pour ça que je parle de Jules Verne, évidemment. Un roman d'aventure avec un petit peu d'anticipation, avec pas mal d'archéologie. Vous nous baladez quand même de moins 300 avant Jésus-Christ à plus 2020, et de la Chine à l'Oregon, en passant par la Corée du Nord. Alors, j'ai d'abord une première question évidente. J'ai appris, et je vais naturellement me précipiter sur le premier bouquin, point zéro, qu'il s'agissait du deuxième tome, et que vous l'aviez publié 18 mois après avoir écrit le premier. Ça vous arrive de dormir? Parce que rien qu'en recherche, on va revenir dessus après, rien qu'en recherche, c'est invraisemblablement documenté. C'est génial d'ailleurs, hein. C'est pas un reproche. Hein.
Merci, c'est très gentil. Alors, c'est pas 18 mois, c'est 29 mois en réalité.
Ah, mais même 29, comment vous faites?
Bah, disons que j'essaye d'écrire en volant du temps à ma famille, en volant du temps à mon travail principal. Donc, j'aurais aimé avoir la possibilité d'avoir de grandes plages d'écriture de plusieurs heures, mais en réalité, ce sont de toutes petites plages que j'essaye de glisser dans les interstices de ma réalité familiale et professionnelle. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un travail d'écriture qui est assez malaisé par rapport à, je dirais, celui d'autres auteurs qui ont la chance de pouvoir écrire en continu. J'essaye néanmoins. Alors, effectivement, comme vous le dites, la documentation a une très, très grosse part. Documentation qui se fait par le biais de voyages, par le biais de dialogues, par le biais d'Internet, énormément. Vous l'avez dit, dans ce deuxième opus, nous sommes baladés, je dirais, sur les deux rives du Pacifique. La Chine, je n'y suis pas allé, contrairement à mon voisin, je ne suis pas allé en Corée du Nord. Il y a très très peu de chances pour que je puisse m'y rendre après avoir écrit Mausolée, d'ailleurs. Je suis allé. Voilà.
Parce qu'il y a un dictateur fou.
Voilà, il y a un dictateur fou à côté duquel, je dirais, la famille Kim passe pour de doux agneaux.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Par contre, je suis allé en Oregon. J'y suis allé deux fois à l'occasion de congrès médicaux.
Il se trouve que je connais Crater Lake.
Voilà.
Et là, c'est sûr, c'est pas Internet. Vous y avez été.
J'y suis allé en 1994 à l'occasion d'un post-congrès. Et je veux dire qu'effectivement, le roman est né le jour où, étant grimpé sur une éminence qui domine le lac, j'ai découvert ce cratère géant qui est une vision. Alors, je n'ai pas ressenti de tremblement de terre. Mais j'ai ressenti, je dirais, l'équivalent, un sentiment de lumière céleste qui descend sur vous, un sentiment d'épiphanie. Et je me suis dit, voilà, c'est une sensation que tu n'éprouveras peut-être jamais une seconde fois dans ton existence, un sentiment de paix. Je suis assez peu branché dans la mouvance New Age. Mais là, clairement, on sent qu'il y a des forces telluriques qui montent en vous quand vous êtes devant ce type de panorama. Et là, je peux dire que le roman est né ce jour-là. J'étais encore très très loin de me lancer dans le travail d'écriture, puisque j'ai commencé à écrire mon premier roman en 2009, donc on en était encore très très loin. J'avais déjà, je dirais, une certaine fin d'écrire, mais on en était encore très très loin. Mais là, clairement, je dirais, le germe s'est planté dans ma tête qui devait éclore presque 20 ans plus tard avec l'écriture de Mausolée.
Et il faut dire aux gens qui nous écoutent que donc un des lieux de l'action de ce roman, c'est donc Crater Lake, ce qui traduit veut dire lac de cratère, qui est un parc national des États-Unis, qui est juste une pure merveille, qui se situe en Oregon, donc sur le côté de la côte nord-ouest pacifique, enfin c'est pas sur la côte, mais bon, qui est évidemment beaucoup, beaucoup moins connu que les grands parcs nationaux californiens comme le Yosemite, mais qui sont une pure splendeur. Alors on connaît ici en France évidemment des lacs de cratère, hein, moi je suis d'origine auvergnate, le lac Pavin, c'est vraiment un truc magnifique, mais seulement on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et le Crater Lake, je comprends que ça bouleverse une vie, quoi, de voir ce lieu. Oui.
Et si je peux me permettre, j'adhère complètement au propos où l'idée d'un livre naît en 2-3 secondes et qu'ensuite c'est des années de travail derrière pour lui donner forme, mais instantanément on a cette espèce de vision, un petit atome qui est la naissance d'un univers complet, quoi. Et j'adhère complètement à ce genre de sensation, de sensibilité, complètement.
Et alors, quand je parle de documentation, ce n'est pas seulement des documentations géographiques, je veux dire la documentation historique est phénoménale sur le premier empereur de Chine, et puis sur l'avionique, et puis sur l'armement, et puis sur la façon de fonctionner des agences fédérales américaines. C'est un vrai bonheur de se dire, voilà quelqu'un qui sait ce dont il parle et qui sait ce dont il écrit. Je pensais, pour vous opposer à quelqu'un que j'ai absolument détesté, à Dan Brown, qui nous parle de l'église Saint-Sulpice en la décrivant n'importe comment, en n'ayant visiblement même pas pris la peine de regarder sur Internet comment elle est fabriquée, et qui nous dit, une Française spécialiste de sociologie qui arrive dans le Louvre et on lui dit, vous savez, cet obscur roi carolingien qui s'appelait Dagobert. Et elle répond, ah oui, c'est pas celui qui est mort d'une flèche dans l'œil. Quand un mec écrit un truc comme ça, je veux dire, le bouquin me tombe des mains, quelle que soit la qualité du polar par ailleurs. Vous, c'est absolument inouï ce qu'on apprend. Et alors surtout, ce qui est d'absolument extra, c'est qu'autour de toutes ces choses merveilleusement documentées, vous aussi finalement, vous prenez une structure qui est une structure archi-classique. Hein. On a envie de penser film, on a envie de penser série télé, c'est-à-dire on a le milliardaire qui tire les ficelles un peu roublard, qui façonne toute son équipe, là on est dans Charlie et ses drôles de dames, hein. Mais on est aussi dans l'agence touriste avec chacun des héros absolument plus phénoménaux les uns que les autres, avec une androïde magnifique. Moi, mon préféré des héros, c'est le Maori polyglotte, là, le surdoué des langues vivantes. Il entend une langue pendant 10 minutes, crac, il la comprend. J'adore vos idées d'anticipation et là, un petit peu de fantastique aussi, parce qu'on a quand même, ça serait trop simple d'avoir une intrigue. On en a deux, on en a même trois, puisqu'on a à la fois une recherche archéologique, à la fois sauver le monde et trouver la plante qui va donner l'immortalité. Donc j'aime autant vous dire qu'on a de quoi, on doit de quoi s'intéresser à tout ça. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à introduire le thème chinois ? C'est ce premier empereur de Chine et tout ce thème archéologique.
Alors, moi, je dois dire qu'au gré de mes lectures, qui remontent déjà à fort longtemps, compte tenu de mon âge canonique, je me suis amené à m'intéresser à certains personnages emblématiques de l'histoire du monde. Et, je veux dire, ça ne touche pas uniquement l'histoire des personnages. D'ailleurs, moi, je suis attiré par les gens qui sont pleins d'ombre et de lumière, et les gens qui sont pleins de superlatifs. Je dirais, trouver un personnage dans l'histoire du monde qui regroupe à la fois, je dirais, tant de qualités, pas de qualités humaines, car je doute que ce personnage en ait été vraiment rempli, mais de qualités en termes de visionnaire, en termes de bâtisseur, en termes de législateur. C'est un homme qui a fondé une civilisation à lui tout seul. Il n'y en a quand même pas tant que ça dans l'histoire du monde. C'est l'homme qui a unifié la Chine, qui a révolutionné le système des poids et mesures, qui a unifié la monnaie, qui a unifié le langage, qui a bâti la grande muraille de Chine. Voilà toutes les réalisations de cet homme-là. Et en même temps, c'était un tyran de la pire espèce qui a massacré les lettrés, qui a fait des autodafés de livres, puisque tous les livres antérieurs à son règne, à l'exception des traités de médecine et d'agriculture, ont dû être systématiquement pilonnés. C'est un homme qui, je dirais, était également habité par une folie. Alors ça transparaît bien évidemment dans Mausolée, la folie de la vie éternelle, qui a passé toute la deuxième partie de son règne à envoyer des expéditions aux quatre coins du monde pour qu'on lui ramène l'élixir d'immortalité. Voilà, donc un homme où, je dirais, vraiment les travers les plus extrêmes de notre condition côtoyait en même temps des sommets de génie. Voilà un personnage comme il en existe très très peu dans l'histoire. Et je veux dire, après avoir lu un très bel ouvrage qui s'appelle, sans surprise, Le premier empereur de Chine de Jonathan Clements, où il y a la biographie, je dirais, in extenso du personnage, je me suis dit, voilà, ça c'est, il faut absolument que je bâtisse un roman tournant autour de ce personnage et en même temps trouver un petit artifice littéraire qui me permette de le faire revivre à l'époque actuelle.
Et alors, question archi-naïve de total inculte, il y a effectivement des vestiges qui diraient qu'à cette époque-là, la Chine a découvert l'Amérique ?
Alors, non seulement il y a des vestiges, mais je dirais que nous sommes actuellement en 2015 à peu près dans la même situation que nous étions dans les années 1970 à propos de l'hypothétique, elle était hypothétique à l'époque, l'hypothétique arrivée des Vikings sur les côtes nord-américaines dans, vers les années 900, vers les années 1000. Donc la saga de Leif Erikson est connue depuis très très longtemps, mais on pensait jusqu'à présent que c'était, que c'était du domaine de l'imaginaire. Et puis on a commencé à trouver des artefacts scandinaves sur les côtes de Terre-Neuve, sur les côtes du Canada, dans le Maine. Finalement, la découverte archéologique qui a emporté la mise, c'est la découverte d'un ancien village scandinave dans l'Anse-aux-Meadows sur la côte de Terre-Neuve. Donc on sait maintenant, avec une certitude absolue, que les Scandinaves ont effectivement établi des implantations qui n'ont pas duré très longtemps, mais des implantations sur la côte est de l'Amérique. Alors, maintenant, à deux générations de distance, on s'aperçoit qu'on retrouve de plus en plus d'artefacts chinois, effectivement, sur les côtes de l'Oregon, sur les côtes de l'État de Washington, en Californie, au Mexique. On trouve au Mexique, en Arizona, au Nouveau-Mexique également, des pétroglyphes qui sont des extrêmement apparentés à l'écriture chinoise d'il y a 2000 ans. Donc les preuves se multiplient d'un contact transocéanique entre la Chine et ce qui s'appellerait plus tard l'Amérique. Il faut savoir également que dans les annales chinoises, qui sont quand même très très bien documentées, on a 2000 ans d'annales chinoises, on trouve des récits fort documentés de voyageurs qui, parcourant 10 000 km vers l'est, ont trouvé un continent avec des gens qui peuplaient ce continent. Et la description de ses habitants est très superposable à ce que l'on peut imaginer des Amérindiens d'il y a 2000 ans. Donc les preuves maintenant sont tellement nombreuses et tellement documentées que la certitude est quasiment acquise.
Malheureusement, on arrive pratiquement au bout de notre rencontre, ce qui est vraiment un désastre parce que j'ai des tas de questions à vous poser. Donc une question rapide à chacun d'entre vous. Alors donc Saul, l'amour fou. Vous en pensez quoi?
Yes, please.
Voilà une réponse
oui,
brève.
Volontiers.
Indrek, donc vous avez commencé par écrire de la science-fiction. Alors, allez-vous y retourner ou bien est-ce qu'on va continuer à vous voir écrire sur le Moyen-Âge ou les deux?
Ei, ma olen ikkagi ulmekirjanik, kes ajutiselt kirjutab kriminaalromaane, aga see ajutisus on natuke pikale veninud, aga ei, ma ikkagi vahepeal tunnen süüme piinu ja kirjutan ulmet ka edasi kogu aeg usinalt.
Non, je suis vraiment un écrivain de science-fiction qui s'est mis par hasard à écrire des romans historiques. Ça dure un petit peu plus longtemps que ce que j'avais imaginé, mais je continue à faire de la SF et je continuerai encore, il n'y a pas de problème.
Donc Sébastien, j'avais dit que je reviendrais vers vous pour que vous nous parliez musique. Dites-nous comment et pourquoi, en trois phrases, la musique structure votre roman, parce qu'elle le fait.
Gomene, Ichiban, watashi no shashin toremasu kudasai. Dozo. La musique, en fait, c'est le premier personnage de Wolf, qui est un ancien commando déphasé, qui est dans la brigade criminelle, pour plonger vraiment dans sa psyché quand il est en plein shoot d'adrénaline, c'était Search and Destroy des Stooges, que j'écoutais 10-15 fois, pour vraiment comprendre et pouvoir décrire au plus près ce qu'il ressentait. C'est la toute première fois dans l'écriture que la musique est intervenue. Ensuite,
il y a d'abord le titre Gimme Shelter, qui apparaît avant.
Je vais faire dans l'ordre. Ensuite, le personnage de la vipère, qui est la loi de l'alignement, il lui fallait une musique, Kraftwerk, musique, une quintessence poétique qui vient d'une musique totalement mathématique, totalement, je veux dire, c'est pas basse, guitare, batterie, c'est que de la programmation, une musique mathématique, mais de laquelle ressort des haïkus électroniques. Et Kraftwerk, pour ça, c'est totalement énorme. Et la vipère ne pouvait écouter que ça. Et moi-même, je m'imprégnais de cette musique pour me mettre dans l'état d'esprit de communiquer avec la vipère. Et Diane, le troisième personnage qui polarise beaucoup de musique autour d'elle, même si c'est pas très présent dans le livre, mais pour l'écriture, comme c'est une personne qui construit son monde, c'est peut-être le moins connu de les Stooges, Kraftwerk, je pense que tout le monde connaît, mais Coil, c'est un groupe majeur qui est le précurseur à la fin des années 70 de ce qu'on a appelé la musique industrielle, qui se sert d'accidents sonores, qui théorise le chaos en musique, qui prend les sons venus de l'espace, ces espèces de trains d'ondes qui transforment en musique, dont ils modifient le rythme. Ils se servent d'instruments bizarres, et d'accidents. Tout ça pour créer, c'est plus un design sonore que de la musique. Et pour un personnage qui est en train de construire son propre univers total neuf et singulier, c'était Coil qui lui venait. Et ensuite, pour finir par les Rolling Stones, c'était à la relecture des épreuves, où j'avais besoin de quelque chose de totalement construit, de totalement maîtrisé, mais en même temps de très léger. Du rock'n'roll qui coule et qui roule, c'était les Rolling Stones, donc ça a donné son titre à chacune des premières parties, premier chapitre de chaque partie. Oui.
Oui. Et vous, Antoine, alors la question, c'est plutôt, vous nous promenez où dans le troisième opus ?
Le troisième opus, pour l'instant, est uniquement à l'état d'embryon dans ma tête. Je vais juste vous donner une petite indication.
Donc,
dans le premier opus, on va dire que mes héros sauvaient le monde et procuraient une source d'énergie inépuisable à l'humanité. Dans le deuxième tome, mes héros sauvent le monde à nouveau et procurent l'immortalité, voilà, ou un semblant d'immortalité à l'humanité. Alors pour le troisième, je vais paraphraser Buzz l'éclair et donc on dira vers l'infini et au-delà.
Ah, voilà, on est hélas obligé d'arrêter maintenant. J'espère que on vous aura donné envie, c'est archi frustrant de s'arrêter maintenant, vous donner envie de lire ces quatre romans absolument formidables. Je vous rappelle Sébastien Rezer, L'alignement des équinoxes, Indrek Argla, Le glaive du bourreau, Antoine Traki, Mausolée, et Sol Black, Le son d'un tueur. Merci à vous tous.
Merci à vous.